Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut les amis.
Salut Charline.
Bon, je vous demanderai d'être très attentifs aujourd'hui.
Comme tous les jours.
Non, mais parce qu'on reçoit la Houellebecq au féminin, oh. Marion Messina.
Waouh, wow, Charline, quelle finesse dans l'analyse littéraire.
Tu fais des liens entre les auteurs.
Oh, ouais. Ça va, c'est écrit sur le bandeau. Ça va, son premier roman, Faux départ.
Ouais, mais donc pour elle, c'est pas un faux départ.
Ouais, enfin, être comparé à Houellebecq.
Ouais, littérairement, ça va. Hein.
Mais imagine Houellebecq avec des couettes
et avec des dents.
Ouais, c'est vrai que.
Ouais, bah, je dirais avec des couilles même. Hein. Enfin, ouais. Des ovaires. Quand on commence son roman comme ça, il en faut, je vous le dis. Alors, je cite. Alejandro s'était réveillé avec la bouche sèche et la mi-molle des matins maussades.
Ah ouais, prends ça Houellebecq là. Ouais.
Alexandre avec une demi-molle, ça m'étonnerait.
Ouais, ouais. En tout cas, c'est là qu'on se différencie. Tout le monde parle de Houellebecq. Eh ben nous, on reçoit son héritier.
Eh ouais, voilà, on est à contre-courant, voilà. On est des rebelles.
Je veux pas briser votre enthousiasme, mais.
Mais quoi
bah, si en interview elle a autant d'énergie que Houellebecq, ça m'inquiète un peu.
Ouais, mais... et puis peut-être l'hygiène, on n'a pas vérifié.
Mais non, c'est plus au niveau du style, évidemment.
Vestimentaire.
Mais non, elle fait un portrait sans concession d'une fausse méritocratie à la française.
Ouais, donc elle parle pas des bordels thaïlandais, quoi.
Non, tu vois, c'est plus sur l'aspect sociologique, l'analyse de notre société.
Elle parle pas des gilets jaunes.
Mais non, mais elle dénonce les dérives du libéralisme.
Ah, c'est une marxiste. Ah, bah ça va alors.
En tout cas, elle a un gros avantage sur Michel Houellebecq. C'est que elle, bah, elle va nous parler.
Ah bah ouais.
Bonjour la France Inter et bienvenue dans la start-up de Radio France, un endroit où la blague va au contact des actualités pour entendre leurs doléances. Et voici les trois thèmes qui n'ont pas été abordés hier malheureusement dans le gymnase de Grande Boule Théroude. Ça commence à se voir, le lien de subordination des chauffeurs de VTC à leur employeur Uber. Un employé vient d'être reconnu comme salarié pour bénéficier des droits élémentaires de protection sociale. Alors comment réagissent les patrons de ces auto-entrepreneurs à moteur?
Je sais pas ce qui se passe mon vieux, dans la voiture les gars commencent à faire des salades.
Oh les Parisiens, ils sont 12 000 par an à fuir la capitale pour aller s'installer en région ou en banlieue. Et cette hémorragie ne va faire que s'accentuer à cause de la vie de dingue, du prix des loyers. Et puis les Parisiens font moins de bébés.
Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour.
Ah bah c'est pour ça alors. Les écrivains sont très présents sur les réseaux sociaux pour assurer la promotion de leurs livres bien sûr. Mais d'après les sociologues aussi parce que ces écrivains font moins autorité dans la société. Alors ils passent par la fenêtre des réseaux, parfois encouragés par leur éditeur aussi.
Commencer à nourrir le blog et surtout aller vers l'interactivité.
Ouais, de manière générale, il ne faut vraiment pas hésiter à être interactif, il faut qu'on soit donf sur le transmédia.
Lui, il est présent sur les réseaux et ouais, il fait autorité à donf dans l'humour. C'est Alex Vizorek.
Complètement bonjour. Transmédia, quoi. Il part de tous les médias.
C'est pas faux. Je vous ai pas encore présenté.
Ouais, pardon, sinon, ouais.
Autour de la table, une belle équipe, figurez-vous. À 17h20, c'est elle qui est blogueuse en freelance et chroniqueuse musicale en amateur. C'est Mélanie Bauer, bonjour.
Bonjour, oui, la précarité, ça me connaît, moi. Je vous emmène aujourd'hui dans l'Utah avec l'histoire d'un jeune garçon de 20 ans mort en 1934. Oui, c'est un disque.
Ah, pas récent, récent. À 17h30, celui qui aujourd'hui s'est intéressé à la mode.
Ben oui.
Donc on ne peut pas parler d'investigation, mais plutôt de découverte, dans son cas. C'est Guillaume Meurice.
Mais oui, bonjour à tous. Bah, c'est la Fashion Week.
Ben ouais.
Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je suis allé parler d'actualité à la Fashion Week.
En défilé, j'ai vu une fille qui avait un t-shirt gilet jaune à la mode.
Ils sont partout. Oh, ils sont partout. Hein.
Et enfin, à 17h40, celle qui consomme avec tellement d'ivresse les bouquins qu'on peut dire qu'elle aime sans livrer.
Oh,
il est beau ce néologisme. C'est Juliette Ardo. T'es bien, sans livrer.
J'ai du yop dans ma gourde.
Oui, ne décevez pas les gens. De quoi on va parler?
D'un premier roman que j'ai raté à sa sortie, mais heureusement, il vient de sortir en poche.
Mais quelle chance!
Oui, car voici celle qui va éclairer de sa lucidité cette heure qui démarre. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes...
Marion Messina.
Ça, c'est classe.
Voilà.
C'est...
Verseau, ascendant scorpion. CSP moins moins.
France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek.
Par Jupiter.
Bienvenue Marion Messina.
Bienvenue.
Bienvenue
chez vous, merci.
Et oui, vous vous invitez aussi chez les auditeurs de France Inter qui vous accueillent pendant cette heure comme nous. Nous allons d'ailleurs expliquer aux auditeurs dans 2-3 minutes comment nous sommes arrivés à avoir votre livre dans les mains. Car il est paru en 2017 aux Dilettantes. Il est disponible maintenant en poche aux éditions J'ai lu. L'édition de poche qui vous présente Marion Messina en héritière de Michel Houellebecq. Est-ce que vous acceptez cela ? Est-ce que vous acceptez, vous y voyez des points communs ? Est-ce que
c'est
vous
l'éditeur
êtes...
qui a imposé le mandat.
Dans un héritage, il y a toujours une partie qu'on peut refuser. Je refuse la dette, mais je prends l'immobilier.
Ça veut dire que c'est un auteur que vous lisez, que vous appréciez, dont vous pourriez être influencé ?
C'est le Houellebecq des jeunes années qui m'a influencé. En fait, l'analogie qui a été faite, elle était entre Faux départ et Extension du domaine de la lutte. Parce qu'il s'agissait de deux premiers romans, de deux personnes qui travaillaient, qui étaient inconnues, qui passaient d'abord par un petit éditeur, qui n'avait pas forcément de réseau, et en fait, qui arrivait et qui fracassait un petit peu tout. Si maintenant on essaye de faire une analogie entre Faux départ et Sérotonine, il faudra être de très mauvaise foi quand même.
Effectivement. Alors, Marion Messina, dans Faux départ, votre héroïne s'appelle Aurélie. Elle quitte Grenoble, où elle a planté ses études de droit à la fac. Elle part tenter sa chance à Paris et sa vie d'adulte démarre. Sa vie d'adulte qui prendra donc un faux départ, on s'en doute, avec le titre de l'ouvrage. Alors, Aurélie, l'université ne lui convenait pas. Peut-être elle aurait voulu faire Cagne-Hippocagne, mais elle n'a pas les moyens. C'est-à-dire que les parents n'ont pas les moyens de faire qu'elle fasse les grandes écoles. Donc l'UNIF est une sorte de second choix, c'est ce que vous dénoncez d'ailleurs. Donc l'UNIF ne lui convient pas. La vie à Paris est un enfer sans moyens. Pourquoi est-ce que votre héroïne, elle ne trouve pas sa place, comme des dizaines de milliers de jeunes, ni à l'université, ni dans Paris ?
Mais elle ne trouve pas sa place parce qu'en fait, elle fait partie, on va dire... De la casse qui est structurelle et qui est organisée. C'est-à-dire que vous avez un système qui est fait pour que les élites se reproduisent. Vous avez un système qui est fait pour que les enfants d'ouvriers deviennent ouvriers. Sauf que quand le secteur industriel se casse littéralement la gueule depuis 50 ans, ceux qui étaient nés pour devenir ouvriers ne le deviennent pas. Et donc ensuite, ils trouvent leur place dans un secteur tertiaire qui est de plus en plus précarisé, dans des fonctions qui sont aussi de plus en plus humiliantes. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous travaillez dans le tertiaire en vous tapant la butte aux cailles en vélo sous la pluie pour livrer une pizza à minuit, il y a quelque chose qui a été fait pour que ça se passe de cette façon-là.
Donc le faux départ d'Aurélie, c'est un faux départ peut-être parce qu'elle a voulu essayer de sortir du conditionnement de son conditionnement social. Si peut-être elle était restée dans ce qu'on lui impose et qu'elle était déjà lucide sur la case et qu'elle reste dans son milieu social et ce qui est déterminé pour elle, elle aurait peut-être pas pris un faux départ. C'est une ambition qui s'est cassée la gueule.
Oui, et puis c'est une ambition qu'on lui a fait miroiter tout au long de sa scolarité. C'est-à-dire que on vous fait croire que quand vous êtes bonne élève d'un lycée de ZEP, vous avez les mêmes chances que lorsque vous êtes enfant de profession libérale ou de catégorie supérieure à Paris. Et moi, je raconte toujours cette anecdote. J'ai découvert l'existence des classes prépa. J'avais déjà passé mon bac. Donc, vous avez d'un côté, mais tant mieux pour eux, mais vous avez d'un côté des enfants qui connaissent l'existence de Cagne et Hippocagne dès le CM2 et qui ensuite vont dans un bon collège, dans un bon lycée et qui pensent...
Qui sont destinés.
Exactement. Ouais. Et vous avez d'autres personnes qui découvrent des filières... quand ils ne peuvent déjà plus les intégrer. Vous en avez d'autres qui préparent des diplômes pour passer des concours et puis ils se rendent compte que sur le papier, vous pouvez passer un concours catégorie A avec un bac plus 3, mais que en réalité, ceux qui valident le concours en question sortent de l'ENA.
Tout cela est en substance dans le roman, mais romancé, c'est une histoire. Et comme dans beaucoup d'histoires, il y a beaucoup d'amour aussi. Il y a ce premier grand amour avec un étudiant colombien qu'elle rencontre à l'université à Grenoble. Le pauvre Colombien est arrivé à Grenoble. on salue les Grenoblois. Alejandro, non, mais c'est vrai, il ambitionnait peut-être Paris, mais il n'avait pas les moyens d'aller à Paris. C'est Grenoble qui est aussi, voilà. Alejandro, c'est un grand lecteur, il rêve d'être écrivain. Il y a plusieurs histoires d'amour et d'amitié dans ce livre. Est-ce que les histoires d'amour, elles conditionnent aussi le regard d'Aurélie et son regard cru sur la société ?
Oui, parce qu'en fait, je pense que c'est quelqu'un de très naïf et de très bonne foi,
qui pense qu'en travaillant bien à l'école, on a un bon boulot et qu'en s'investissant dans une relation, on a une belle histoire d'amour. Et puis finalement, elle découvre qu'on peut très bien travailler à l'école.
Rire sincère de Juliette.
Marion, continue.
Voilà. Et donc, elle découvre qu'on peut bien travailler à l'école et finir hôtesse d'accueil, voire hôtesse de caisse, et qu'on peut s'investir dans une relation et que la simple bonne volonté ne fait pas tout. Et l'idée aussi sous-jacente du livre, c'est de dire que on a un discours aujourd'hui plus que jamais qui est hyper paternaliste et hyper moralisateur, où on vous fait croire que quand on veut, on peut, alors qu'en réalité, ben vous voulez et vous pouvez pas forcément.
On va y revenir avec Marion Messina qui publie donc Faux départ, c'est disponible en poche, donc c'est pas cher du tout, emmenez-le partout, on vous le conseille chaudement. Et puis comme ça on peut dire aux auditeurs comment on vous a découvert. Messina, ça commence par M, et il y a la fête de l'UMA. Dans une quête d'égalité, les auteurs signent les uns à côté des autres par ordre alphabétique. Et Guillaume Meurice était assis à côté de Marion Messina. Guillaume Meurice a lu les deux premières pages du roman et s'est dit « c'est vachement bien, je vais le filer à Juliette ». Qui nous a pris la tête pendant des semaines en nous disant cette Marion Messina, elle est extraordinaire, son roman est fabuleux.
Donc vive le communisme.
Il s'appelle Faux départ. Voilà, c'est où mettez les pieds aujourd'hui. Avec Marion Messina, vous écoutez Par Jupiter sur France Inter. Smile, évidemment, bien sûr, tu écoutes Par Jupiter, ma vieille. Tu m'étonnes que tu smiles. La jeune écrivain Marion Messina est avec nous. Vous avez quel âge, Marion ?
29 ans.
Vous avez écrit le Faux départ à quel âge ?
25 ans.
Oh là 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 là. Quand vous avez, quand vous allez lire Faux départ et que vous allez dire, elle a écrit ça à 25 ans, ça va être une grosse déprime. Pour entourer Marion Messina.
Eh bien, Juliette Arnaud, vous avez entendu rire. Guillaume Meurice, oui. Le champion de l'ordre alphabétique. Et Mélanie Bauer qui nous parlera musique des années 30.
La formation
non,
est bien sûr...
Pas du tout, mais c'est pas grave.
Vous avez dit les années 30 tout à l'heure.
Non, mais c'est pas grave.
Vous avez dit les années 30. Ah,
oui, j'ai dit, je vais parler d'un personnage qui est mort en 1934, mais c'est pas c'est de la musique d'aujourd'hui. Enfin,
et là, vous allez écouter un journal écrit par Alex Vizorek.
C'est là, je le connais, celui-là.
Vérifiez quand même les infos derrière, si vous voulez bien, merci.
Que vous voulez-vous ? On est au temps de l'information continue. Je suis comme ça et je changerai pas.
Le journal voilà. De presque 17h17.
Mais faut pas raconter des cracks, hein.
Il a fait un boulot, lui.
C'est la pique.
On commence par les titres.
On parlera de cette performance incroyable qui s'est passée dans un gymnase et qui a explosé toute toutes les conventions.
Eh ouais, pour aller parler de la prestation d'Emmanuel Macron face au maire.
Ah, pas du tout. Non, je parle de l'athlète Kathleen Ohashi à Los Angeles, dont la prestation en gymnastique a obtenu la note maximale de 10. Elle a été vue plus de 20 millions de fois sur Internet.
Alors, pardon.
Ouais, voilà. Alors, pas votre jour. Pas votre jour. On parlera également de cette personne qui, au tapis, a multiplié les grands écarts, les pas de côté.
Ah, on parle toujours là, de Kathleen Ohashi.
Bah non, là, je parle d'Emmanuel Macron.
Ah bah dis donc, ça voilà, va bien.
Tu verras des brèves.
Ouais, ouais, bah d'ailleurs, ça, je peux tenir 6 heures, rien qu'avec les brèves. Hein,
il y aura un truc de cohérent. Allez.
On commence par le président.
Oui, voilà. Hier, Emmanuel Macron était en visite surprise à la mairie de Gagny dans l'Eure, où il a prononcé cette phrase. Les gens en situation de difficulté, on va davantage les responsabiliser, car il y en a qui déconnent.
Et il sait de quoi il parle, lui qui est en difficulté et qui déconne en ce moment, Manu.
Toujours dans le grand débat national, oui. Brigitte Bardot a dénoncé un mépris insupportable d'Emmanuel Macron.
Oui, comme quoi Emmanuel Macron n'a pas la cote avec toutes les Brigitte d'un certain âge.
Quant au ministre de l'Intérieur, oui, Christophe Castaner, il a affirmé n'avoir jamais vu, je le cite, oui, de policiers ou de gendarmes attaquer des gilets jaunes. À l'inverse, j'ai vu des manifestants les attaquer, dit-il.
Oui, ben il a raison de le dire, parce que moi j'ai même vu des manifestants lancer leurs yeux dans des flashballs. Ouais. Et alors, il faudrait que ça cesse. Hein.
Parlant des gilets jaunes, justement.
Oui, c'est toujours intéressant de prendre un petit peu l'avis modéré de Nicolas Dupont-Aignan. Ah. C'est sur RTL.
135 € d'amende quand on porte un gilet jaune. Et dans ma banlieue, quand on porte une burqa, il n'y a pas d'amende. C'est ça la phrase de M. Macron ? Il préfère la burqa au gilet jaune ?
Un petit point islam pour le plaisir. C'est galop.
Aucun lien logique.
Il y en a un peu plus, je vous le mets.
La mode.
Passons à l'affaire Benalla, car selon le Canard enchaîné, l'Élysée a oublié de récupérer le téléphone crypté et le quatrième passeport de l'ex-chargé de mission.
Ah oui, mais non, on n'est pas face à un scandale d'État. C'est ces petites distractions d'État. Voilà, c'est tout.
Le ministre de l'Agriculture, lui, Didier Guillaume, il a assuré sur l'antenne de BFM TV que le vin n'était pas un alcool comme un autre.
Avec un argument, quel n'est pas intéressant cet argument ?
Mais je n'ai jamais vu un jeune qui sort de boîte de nuit et qui est saoul parce qu'il a bu du Côte du Rhône, du Gros Hermitage, du Bordeaux ou des Costières de Nîmes. Jamais.
Voilà quelqu'un qui ne fréquente pas les mêmes boîtes de nuit que Juliette.
Santé toujours. Dans une lettre adressée à Agnès Buzyn, des psychiatres ont dénoncé la faible prise en charge des malades mentaux.
Et ça, c'est vrai que les malades mentaux devraient être plus soignés, parce que sinon ils finissent par écrire des articles dans Valeurs Actuelles. Et c'est vraiment quelque chose que ça, il faudrait suivre.
Allez, du sport.
Oui,
alors,
tennis.
Tennis. Deux joueurs français professionnels ont été interpellés pour des soupçons de match truqué.
Ça, c'est Tsonga et Gasquet.
Non. Jules Okala et Mick Lescure.
Ah merde.
Bah, pourquoi ?
Bah, ça aurait expliqué pas mal de choses, quoi.
Bah, comment ça ?
Bah, Tsonga et Gasquet, ils ont pu gagner un match depuis 2 ans. Moi, ça m'aurait fait plaisir d'apprendre qu'ils faisaient exprès, mais.
Bon, allez, les brèves.
Un Américain capturé en Syrie dit avoir rejoint l'État islamique par curiosité. Oh. Moi, je voulais faire une visite, monsieur. Hein. Je ne savais pas. Hein.
La dernière.
Et oui, Gilbert Montagnier va participer, ce sera diffusé sur M6, au meilleur pâtissier. C'est écrit dans 20 minutes et il a déclaré le plus dur, c'est lui qui l'a dit, était de séparer le jaune du blanc. Voilà. Si Cyril Lignac trouve que le gâteau est un peu croustillant, c'est peut-être parce que Gilbert a oublié d'enlever la coquille. Il l'a vraiment dit.
Merci.
Il a beaucoup d'humour, Gilbert.
Poursuivons avec Marion Messina, l'auteur de Faux départ, disponible en poche. Car la semaine dernière, la justice a reconnu qu'il existait un contrat de travail qui liait un chauffeur Uber à son employeur. C'est la une et le dossier de Libération aujourd'hui. Dans la Startup Nation peuplée d'auto-entrepreneurs, les employés doivent s'en remettre à une cour de justice pour reconnaître cette évidence et exercer dans des conditions décentes, avec un minimum de protection sociale. Donc, de plus en plus de pays européens donnent raison aux chauffeurs de VTC. Le vent est en train de tourner, donc. Alors, faisons peut-être un petit tour en banlieue pour prendre la température avec ces chauffeurs de VTC.
Ouais, gros, ça va ?
Non, ça va pas. 12h40, je suis ken, frère.
12h de quoi ?
De bonbons, de bouteilles d'eau, de Uber. Ouais. Parce que les seules bises qu'on nous laisse ici, c'est les kebabs et Uber.
Comme il y a des kebabs partout, ben nous, on partage une voiture et un costume à trois.
Ah, mais c'est très malin, ça, bravo.
On t'a 60 heures par semaine pour un SMIC. De toute façon, Uber, c'est un enculé. C'est un fils de pute, Uber.
En fait, dans votre cité, ceux qui sont en jogging, c'est les chômeurs. Et ceux qui sont avec des vestes, c'est des Uber.
Attention, un Deliveroo peut aussi se cacher dans un jogging.
Un extrait de Neuilly, sa mère, avec Denis Podalydès, le film de Gabriel Julien Laferrière et Jamel Bensalah. Donc la semaine dernière, la justice reconnaît qu'il existe ce contrat de travail entre le chauffeur et son employeur Uber. C'est comme si on disait la semaine dernière, la justice a reconnu qu'il existait une sensation de froid quand il neige. Vous, vous faites quel constat devant ce choix de société devant lequel la France et plein de pays européens et le monde entier s'est engouffré, ce qu'on peut appeler une forme de bullshit job, de job un peu de merde, parce que s'il n'y a pas de protection sociale et qu'il faut aller en justice pour reconnaître qu'il y a un contrat de travail, c'est un peu chaud. Vous qui avez un regard très lucide sur la société, c'est pour ça que vous êtes révélé dans Faux Départ, vous voyez les choses comment?
Mais en fait, la société d'aujourd'hui, pour les classes populaires et de tous les âges, c'est-à-dire que je pense que bientôt, on verra des septuagénaires ou des octogénaires travailler sur des vélos pour livrer des sushis. Ça s'apparente de plus en plus à une société de Dickens avec un smartphone. Et je pense que bientôt, il sera tout à fait envisageable de géolocaliser un cireur de chaussures avec... à chaque fois, une enveloppe un petit peu moderne, un petit peu éco-responsable. Donc, les types de Deliveroo font du vélo plutôt qu'être sur des scooters. Je pense que les cireurs de chaussures utiliseront des cirages véganes. je pense que c'est une grande société de la récupération pour, en fait, nous faire revenir tout doucement au 19e siècle.
C'est la faute à qui ? C'est l'État qui surveille pas ou qui, ici, pour la justice, le fait ou tente de le faire. Mais
je pense que l'État, je pense qu'il n'y a pas de volonté politique d'encadrer certaines choses, et je pense que de toute façon les multinationales ont beaucoup plus de pouvoir et beaucoup plus de moyens de faire plier les États qu'elles ne pouvaient le faire au 19e siècle. Donc même une multinationale au 19e siècle, vous n'aviez rien de comparable avec quelque chose comme Google ou Airbnb. On a aujourd'hui des multinationales dans des tribunaux privés qui attaquent en justice des États souverains. Et on a des multinationales qui sont plus riches que certains États souverains. Donc la question de la souveraineté se pose. Et évidemment, si un État souverain doit courber les chines devant une multinationale, par définition, l'État se retirera de ce genre d'affaires.
Dans votre roman, Mariro Messina, votre héroïne, elle est hôtesse à Paris pour pouvoir payer son loyer. Je vais me permettre de lire un extrait pour se faire une idée à la fois de votre vision, on l'a bien compris, et de votre plume. Avant, les gens allaient à la messe. Maintenant, ils vont au travail, exécuter des gestes, des rituels, prononcer toujours les mêmes phrases. Ils en sortent épuisés et rassurés. Ils espèrent être indispensables à leur équipe, être irremplaçables, marquer leur temps avec leur emploi. Ils sont employés. On leur dit clairement « employés ». Utiliser, et ce mot ne les choque même pas. Rien n'angoisse plus que le chômage. Si des adolescents ont décidé à 15 ans de faire un BTS banque ou assurance, ce n'est pas par passion, ce n'est pas par envie, mais par peur. On leur met dans le crâne, dès qu'ils tiennent debout, qu'ils peuvent glander dans un bureau, mais qu'il ne faut pas être au chômage. Ram ! Drop the livre, c'est tout pour moi, c'est tout pour Mariro Messina.
Ben ça, vous ne l'avez pas dans sérotonine, voilà.
L'héritière de Houellebecq est avec nous, et aussi Mélanie Bauer.
Bon, on va rester dans les vérités fondamentales. Je tiens à en rétablir quelques-unes.
S'il y a un truc sur les années 30, je le dis tout de suite, hein, avant qu'on commence.
Quelques vérités fondamentales. On ne peut pas, quand on est humoriste, être aussi chanteur. C'est un affront à la musique. Quand on aime l'histoire de l'art, on ne peut pas se moquer des grandes œuvres de nos musées. Pire encore, lorsqu'on est une journaliste politique sérieuse, on ne peut pas tourner en ridicule nos dirigeants. Et je ne parle même pas de Juliette. La base de la pensée française. Chez nous, quand on est comme si, on ne peut pas être comme ça. Et pourtant, certains poussent les barrières des conventions et réussissent des prouesses de création à en faire baver les mauvaises langues. C'est le cas d'Emmanuel Tellier. Alors, à ne pas confondre avec Sébastien, je sais que vous adorez Sébastien Tellier. Emmanuel est un grand reporter, également musicien, qui un jour, au fin fond de l'Utah, tombe amoureux d'un aventurier disparu, mort en 1934, Everett Ruess, et lui décrit une vie en musique.
Thank you.
Mais il fait pas que des chansons, hein, Emmanuel Tellier. Il met aussi en scène le mystère Everett au théâtre avec deux comédiens anglais, Jane Morley et Alan Fairbairn, qui incarnent les parents de ce fantôme de l'histoire américaine plusieurs années après sa disparition. Et ça ne suffit toujours pas. Il faut encore aller plus loin pour percer le mystère de la disparition d'Everett Ruess. Emmanuel part aux Amériques et tourne un documentaire, en écrit la BO, comme ça, comme si et comme ça. Le film, donc, d'Emmanuel Tellier, cherche à résoudre un mystère. Raconte l'histoire de ce jeune aventurier de 20 ans, illustrateur, poète, écolo-radical avant l'heure, défenseur des Indiens d'Amérique, ami de la célèbre photographe Dorothea Lange, qui disparaît donc en 1934, en novembre, dans un canyon du sud de l'Utah. La chute du rêve américain, en plein krach boursier, enfin juste après, et ce jeune homme trop pur pour survivre au monde moderne. Ça vous parle hein, peut-être, Marion? Vous êtes ému, Guillaume.
Je suis très touché.
Voilà donc des chansons et des instrumentaux d'Emmanuel Tellier avec Cassandre Berger et Olivier Libault qui ressemblent à ce qu'on pourrait chanter à soi-même quand on marche seul face à la beauté du monde, qu'on a conscience d'être un tout petit vagabond de la vie qui traîne les pieds dans la poussière, la tête dans les grands espaces. On touche ici à des sentiments profonds, intimes, cachés, dignes d'un roman. La disparition d'Everett Ruess, le documentaire est à découvrir après-demain à 18h30 au Jeu de Paume à Paris durant l'expo Dorothea à Lange et en présence d'Emmanuel Tellier. Quant à la BO du film, ce qu'on a écouté, ce beau piano, ces belles guitares et ces chansons, elle sortira le 8 mars. Après, il y aura aussi un concert le 14 au Festival Paris Musique.
Much of life already.
La disparition d'Everett Ruiz, la musique du film documentaire, ça sort le 8 mars prochain. On a le temps.
C'est Emmanuel Tellier, donc, si oui. Vous cherchez l'album. Merci, Mélanie Bauer. Et retrouvez Mélanie dans son salon. Oui, sur mélaniebauer.fr ou sur c'est un blog.
Oui, j'ai enfin mélaniebauer.fr. Oui, je le dis.
Wow. Un blog où vous ouvrez la porte de votre salon avec votre musique et même la porte de votre salle de bain. Elle chante sous la douche. À découvrir.
C'est moderne. Est-ce que vous allez avoir un MySpace?
Il est 17h37 à Grenoble. Et ouais, malheureusement, il faut écouter Guillaume Meurice.
Oh, et oui, et moi je suis en forme, j'ai regardé Manu hier. Impressionnant, putain, 7h non-stop. Le marathonman de l'enfumage, asthmatique, s'abstenir. Il a retourné les mers comme une crêpe. Franchement, non, moi je trouve respect. C'est un commercial de dingue, quoi. Il vendrait du sable dans le désert. Il vendrait du Pascal Obispo à Mélanie Bauer. Il vendrait de la déontologie à Vizorek. C'est un taré. Il est rentré, c'est vrai que les mers, ils étaient à cran, ils voulaient tous le buter. Il est sorti, c'était gangbang inversé. Il s'est fait sucer par tout le monde. D'ailleurs, Macron, il a dit, c'est de la pipe. Hein, il a dit, ça, il a bien précisé, il en a conscience. Alors, on va voir comment les Gilets jaunes vont réagir samedi, parce qu'il y a un match. Hein. Et pour pas que le mouvement s'essouffle, il faut aussi le renouveler. Et posons-nous la question, est-ce que le Gilet jaune, c'est pas un peu démodé? Alors, pour le savoir, c'est simple, je suis allé à la Fashion Week ce matin, ce qui est un petit peu ma zone de confort, pas se mentir. Je suis toujours à la mode, hein, voilà, à la mode des années 80, mais à la mode quand même. Je vous rappelle que je suis Égérie Emmaüs. Alors, on va déjà faire un petit point. Où est-ce qu'on en est au niveau de la mode homme?
On a vraiment une nouvelle idée de l'homme qui s'est plus relaxé, plus tailoring, mais dans une façon qui s'est plus...
L'homme est plus tailoring.
Oui, l'homme c'est plus sartorial.
Voilà, oui. Bon, bah voilà, démerdez-vous avec ça. Moi je sais, je suis tailoring. De toute façon, je suis comme ça. Ah, ça se voit pas forcément, mais je suis tailoring. Alors, il y a l'homme tailoring, puis il y a l'homme en coloring, hein, gilet jauring. Et ce monsieur, il est pour relooker les gilets jaunes.
Ça peut être que quelqu'un va imaginer des choses et repenser leur look.
Par exemple, il pourrait être habillé comme vous.
On a des petites plumes sur les chaussures, ouais, c'est comme ça.
Ça, c'est pas mal, ça.
Bon, je sais pas, ça peut être... Moi, je l'aime. Je sais pas si les autres vont l'aimer, mais moi, je l'aime.
Ça deviendrait la révolution des plumes dans les baskets.
Ouais, exactement, exactement. La révolution des plumes dans les baskets, c'est bien.
Ah bah, ça, c'est peut-être un peu long, je dirais, comme nom de révolution. Dans les livres d'histoire, ça va être un peu galère. Les sans-culottes ont pigé, mais les plumes dans les baskets, ça fait un peu grippe aviaire. Mais c'est pas grave, parce que ce matin, il y avait mieux. Puisqu'il y avait, alors attention, c'est un peu visuel. Une dame habillée en veste à paillettes, bon, jusque là ça va, avec une cagoule licorne sur la tête, avec une corne quoi, sur la tête. Hein, donc pour vous donner une idée, c'est une sorte de Juliette Arnault après 23 heures. Alors la licorne à paillettes, est-ce que ça peut être peut-être une piste hein, pour remplacer le gilet jaune?
Ah oui, parfait, parfait. Oui.
Ça ferait reculer le gouvernement, ça, une manif de licorne à paillettes?
Bah oui, ça divise comme ça.
Est-ce que vous n'allez pas blesser un CRS avec votre corne?
Non. Ah oui, ils m'auront plaqué au sol à fond. Hein.
Ouais, une licorne plaquée au sol, bon, c'est vrai que bon, pour le buzz, c'est pas mal, les images font le tour du monde. Mais bon, le problème, c'est que les associations de défense des animaux imaginaires vont gueuler. Déjà, dès qu'il y a un dragon qui est maltraité, elles font des procès. Je vous rappelle que la chasse aux dahus est interdite à cause d'eux, quand même. C'est pour ça que les chasseurs, ils se vengent sur les cyclistes. Alors, intéressons-nous aux marques qui défilaient donc ce matin. Il y avait la marque Étude. C'est une marque avec notamment plein de t-shirts pas chers.
Ça reste assez abordable, je veux dire.
J'ai vu des t-shirts à 180 euros.
Il y a des shirts à 180 euros, mais si on va chez Dior, ils sont à 400.
Voilà, donc c'est pas la peine non plus de gueuler. Hein. J'entends déjà les gilets jaunes. Oui, je vais pas péter mon PEL pour un t-shirt. Pour un Dior, faut vendre un poumon. Donc vous vous calmez, détendez un petit peu la nouille. Hein, et puis voilà, il faut relativiser. En plus, ce sont des super t-shirts. Hein.
C'est assez novateur ce qu'ils font. Faut pas se mentir, oui, c'est novateur. C'est...
Qu'est-ce qu'il y a de novateur?
Le style, c'est leur style à eux.
Parce que c'est un t-shirt finalement avec deux manches.
Je pense qu'il faut pas regarder que le t-shirt en lui-même, faut regarder l'ensemble de la collection, puisque je veux dire, c'est un ensemble.
Ouais, ouais. C'est parce qu'il y en a plein. En fait, il y en a plein. Les gilets jaunes, ils ont le choix. Il y a plein de t-shirts. Le capitalisme, c'est ça, c'est la liberté. Et il n'y a pas que des t-shirts. Il y a des pantalons à 450 balles. Il y a des chaussettes à 60 euros. Il y a de quoi faire une belle révolution qu'a de la gueule, je trouve. Alors, ceci dit, je bats ma coulpe. Hein. Peut-être qu'en fait, j'ai fait un mauvais postulat de base et que les gilets jaunes sont déjà à la mode. Hein, et qu'ils n'ont pas besoin de changer.
Ah, les gilets jaunes, ils sont très bien. Ils sont très en avance. On a vu, il y a le jaune fluo qui était dans les tendances en fin d'année dernière. Donc, ça va continuer cette année, j'imagine.
Donc, ils sont complètement à la mode, même. Ouais.
Exactement, exactement, très en avance.
Ils sont très en avance, c'est fou, vous avez vu comme la mode s'adapte rapidement. C'est vrai que si vous croisez une personne habillée avec un sac poubelle à la Fashion Week, c'est pas un clochard, c'est un mannequin. Et le sac poubelle, il coûte 400 balles, donc faites gaffe à ça. Et d'ailleurs, peut-être même que je suis à ce point à la ramasse que la mode s'est déjà adaptée aux gilets jaunes.
Il y a des gilets jaunes qui ont commencé à réapparaître l'année dernière avec Balenciaga, la marque Balenciaga. Et donc voilà, c'est très actuel.
Ah ouais, donc ils pourraient manifester carrément en Balenciaga.
Clairement.
C'est combien à peu près?
Oh, j'en sais rien, ça doit être entre 500 et 1000 euros, quelque chose comme ça.
Le gilet?
Ouais.
Ouais, voilà. Ouais, mais bon, après, ça a de la gueule quand même.
Oui.
Oui, il faut savoir ce qu'on veut. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Si vous voulez que Hôtel Krief arrête de vous mépriser, il faut faire un petit effort. Allez, les gilets jaunes, passez de on est fâché à on est fashion.
Merci Guillaume Meurice. Par Jupiter, sur France Inter, en compagnie de Marion Messina, l'auteur de Faux départ, un roman qui est paru en poche récemment. Et si vous voulez vous procurer la première édition aux Dilettantes, paru en 2017, on va y revenir tout à l'heure avec Juliette Arnaud. Mais d'abord cet autre sujet, Paris se vide peu à peu de ses habitants. Chaque année, ils sont 12 000 à se barrer pour aller s'installer en région ou en banlieue. Paris, c'est trop cher, il y a trop de touristes qui occupent notamment trop d'appartements en Airbnb. Et puis, il y a aussi la faible natalité dans la capitale. La preuve avec ce témoignage d'un Parisien qui s'est récemment installé à l'île de Ré.
Ah, vous les Parisiens, vous êtes toujours là, vous bouffez l'estomac pour rien. À Paris, j'étais une vraie tête de con. Alors qu'ici, nous les rétés, on est zen. Ah bah, j'étais comme vous, blanc comme un cul. Avec Marilo, on faisait même plus de galipettes. Hein. Ah bah si. Une fois par an, le soir des Miss France, pour me donner un peu de courage. Ça vous pend au nez, hein? Regardez-les. Vous croyez qu'ils baissent encore, les monospaces?
Tirer les mythes dans ce film qu'on adore et qui s'appelle Ma famille t'adore, t'adore déjà. Oui. C'est un article paru dans Le Parisien aujourd'hui en France, bien sûr. Et on a choisi ce sujet car Paris est un sujet dans votre roman. C'est presque un personnage. Vous faites partie de ceux qui ont essayé de s'installer à Paris puis qui sont partis. Vous faites partie peut-être de ces 12 000 personnes qui se barrent de Paris chaque année. Vous écrivez « Comment se nourrissait Paris ?» Quelle était donc cette vie hors sol, cette population abattue, maintenue dans cette arène par un prestige dérobé au siècle passé? À un moment, votre héroïne Aurélie se dit « Mais comment peut-on vivre à Paris ?» C'est ça?
Oui, c'est ça. Puis elle est de bonne foi. Elle se dit « Mais comment on peut payer 800 euros 16 mètres carrés, prendre le métro en heure de pointe et en plus, si on n'a pas un emploi qui justifie d'être à Paris Bah, comment peut-on accepter pendant 30 ans d'être caissière après une heure et demie de Transilien ou d'être vendeuse en boulangerie en vivant dans le fin fond du Val d'Oise et de se lever à 4 heures du matin pour vendre des croissants à 7 heures C'est effectivement des questions qu'on peut légitimement se poser.
Alors elle est hôtesse pour payer son loyer et elle dit « Nous sommes chargés de la logistique et du rafraîchissement de la façade d'un village témoin ». Paris étant la façade d'un village témoin, vous expliquez aussi que Paris a besoin de force de travail, mais cette force de travail, elle n'en veut pas dans ses murs en réalité. Comment est-ce que vous en arrivez à des formules qui sont tout à fait lucides, mais extrêmement cruelles? Il y a une cruauté dans votre regard sur Paris.
Bah, parce que je pense que je ne mets pas vraiment de fioritures et que je décris exactement ce que je vois. Donc quand je dis que Paris a besoin de force de travail, c'est factuel. Quand je dis que Paris met sa force de travail dehors, je suis tout autant factuelle. Mmh.
C'est le regard d'Aurélie, bien sûr, quand on n'a pas accès à la Fashion Week ou à les Guillaume Meurice, quand on n'a pas accès à des chouettes restaurants, quand on n'a pas le loisir d'aller se balader sur les quais de Seine, c'est notre vision, forcément, c'est un enfer.
Oui, et puis ce qu'il y a avec Aurélie, c'est que toute sa famille est en province, personne n'a tenté l'expérience parisienne avant elle, et finalement, elle, l'image qu'elle a de Paris, c'est un peu le Paris des années 60-70, où il était encore facile de se trouver un logement du jour au lendemain. Enfin, pour l'anecdote, à 14 ans, j'étais allée voir un concert de jazz manouche avec ma mère, qui connaissait pas vraiment la réalité à Paris. Et on est ressorti du concert avec des étoiles dans les yeux, en ayant l'impression que Paris nous attendait. Parce qu'en fait, entre chaque morceau de jazz manouche, on avait un vieux guitariste manouche qui nous racontait ses souvenirs de jeunesse. Et c'était toujours j'ai quitté la Touraine ou j'ai quitté la Sologne, je suis arrivée à Paris, j'avais 20 francs en poche, je suis rentrée dans un bar. J'ai dit que je cherchais une chambre et j'ai avec mes 20 francs payé 2 semaines d'avance. Et là, on se dit non. Alors en fait, aujourd'hui, pour louer quelque chose, faut monter un dossier. Si vos parents sont smicards, donc non imposables, il faut que vous ayez un garant. Faut ensuite que le garant donne ses fiches de paye.
Et c'est sans doute cette première visite à Paris qui a inspiré ce passage. J'adore lire du Marion Messina, si vous permettez. Je vais faire un petit plaisir. J'espère que vous allez le partager avec moi.
Ouais, je précise, c'est la première fois de ma vie que dans le 16e arrondissement, on dit qu'on aime me lire. Donc, je savoure. Ouais,
on y travaille, mais je vous rassure, on n'y vit pas. Alors, on se permettait quelques jours durant un faste ridicule pour le plaisir de s'extirper de sa condition. Des pauvres de la classe ouvrière se retrouvaient à dépenser 5 euros dans un Mainet ou 30 euros de porte-clés. On s'autorisait des goûters en terrasse avec des chocolats chauds trop sucrés qu'on trouvait alors délicieux. On achetait du parfum au Printemps Haussmann, le seul produit de luxe accessible. À Paris, tout était merveilleux. C'était la capitale économique, politique, historique et culturelle. Toute la France se trouvait sous le cul de la Tour Eiffel. Une fois encore, drop the livre.
J'ai l'impression que vous avez choisi le sujet en sachant ce qu'elle allait répondre parce que c'est déjà marqué dedans. Donc c'est un peu facile cette émission.
J'ai choisi le sujet.
Cette émission est truquée.
J'ai choisi le sujet afin de pouvoir aussi lire ces magnifiques extraits de Marion Dessina. Est-ce qu'on peut rapidement toucher un mot de Grenoble? Vous avez grandi dans la banlieue de Grenoble.
Exactement.
Est-ce que la banlieue de Grenoble a pas forcément le même rapport avec le centre-ville de Grenoble que la banlieue de Paris avec Paris?
Eh bien, figurez-vous que Grenoble s'est très parisianisé et que le rapport à la banlieue à Grenoble, c'est un petit peu la même chose qu'à Paris. Moi, je viens d'une ville limitrophe de Grenoble.
Donc, qui s'appelle comment? La salut
Fontaine.
Ok, salut Fontaine.
Voilà, 38600 RPZ.
Et dès que ça prend le chemin.
et effectivement, parce que Fontaine est historiquement une ville ouvrière, communiste, pauvre. Et en fait, avec l'implantation à Grenoble d'un centre de recherche en nanotechnologie au début des années 2000, ben, le pouvoir d'achat des Grenoblois a explosé. Les loyers à Grenoble ont explosé et en fait, les gens sont venus à Fontaine acheter une jolie maison ouvrière, un grand appartement avec la vue sur le Vercors. Et finalement, il y a aussi des quartiers très ouvriers, très populaires de Grenoble qui sont également, on va dire, avec un terme de sociologie très massif, mais il y a des quartiers de Grenoble qui sont beaucoup boboisés. Mmh. Et donc finalement, la parisianisation de la province, c'est quelque chose qui existe aussi.
Dans les grandes villes. Juliette Arnaud, vous qui nous avez bassiné pendant des semaines pour qu'on lise Marion Dessina, ce serait peut-être temps de faire une chronique?
Oui, tout à fait, ben, j'y vais. Alors figurez-vous que pour ce faire, j'ai imaginé une parabole audacieuse où, pour faire le tri dans les variétés de livres, on déciderait que les livres sont des patates. Oui, alors c'est pas glam, mais la patate, c'est comme les livres, la patate, c'est la vie, parce que les patates, c'est tellement de variétés, la charlotte, la rate, la pompadour, la bonnotte de Noirmoutier, et tellement d'opportunités, la frite, le gratin, la purée, les chips. Point d'orgue à cette démonstration ébouriffante, qui oserait faire une raclette sans patate? Un gros pignouf. À présent que tout le monde est convaincu et admiratif de mon talent pour manier la parabole, Alex, fermez la bouche, c'est gênant. Nous sommes dans un monde où les livres sont des patates. Faux départ de Marion Messina est une vitelotte. La vitelotte, c'est cette pomme de terre à la peau épaisse, aussi sombre que celle d'une truffe, et à la chair aussi violemment violette que les yeux d'Elizabeth Taylor. Une fois l'effet de surprise passé, une fois qu'on s'est réjoui de la pointe de noisette dans le goût très fin de sa chair, on apprend que cette patate surprenante n'est pas une création Monsanto Silicon Valley 2.0. Non, elle est ancienne. Et de la même manière, Faux départ, sous ses airs de modernité, hein, il raconte notre monde, Faux départ appartient à une tradition littéraire vieille de 3 siècles, le roman d'apprentissage. Celui où le héros, au centre, apprend son cœur, la société dans laquelle il ou elle vit, la place qu'il veut, peut occuper. Alors il s'appelle Frédéric Moreau chez Flaubert ou Julien Sorel chez Stendhal. C'est souvent un homme. Ici, merci Marion, c'est la jeune Aurélie de Grenoble qui va monter sur, mon expression préférée, monter sur Paris, qui n'est pas issue de la bourgeoisie, qui n'a, et je vous cite, rien pour se démarquer, ni talent, ni physique, ni particularité, et va vite comprendre, je vous cite à nouveau, que l'égalité des chances revenait à dire que le lièvre et la tortue disposaient des mêmes chances sur la ligne de départ. Et Aurélie, elle aura pas le bol de D'Artagnan, un autre provincial, vous vous souvenez, au début des Trois Mousquetaires, qui fait lui aussi une arrivée de pauvre Gascon, lui, à la capitale, sur sa vieille jument, mais il a un coup de bol énorme, D'Artagnan, ici l'amitié en deux-deux, avec les mecs à la cool de son époque et de sa génération, les Trois Mousquetaires. Pour elle, pour Aurélie, ce sera un sentiment absolu de solitude et un ennui implacable. Autre principe de tout bon roman d'apprentissage, tomber amoureux et en baver. Pour Aurélie, ce sera Alejandro. Je cite une des premières phrases de leur rencontre. Par une suite de hasards difficiles à démêler, ils avaient échoué au même endroit, au même moment. Vous dites quoi? Ça fait pas rêver comme début? Pauvre fou. C'est oublier un peu vite que dans les plus grands romans d'amour, les débuts peuvent être médiocres ou fêlés. Confère Aurélien un autre fameux roman d'apprentissage. La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Ça n'empêche pas l'amour, mais l'amour, voyez-vous, c'est pas forcément un truc qui te sort la tronche de l'eau. Surtout que celui-là d'homme, et je vous cite, était un homme difficile, qui ne s'apprivoise pas, qui fait du mal et ne demande jamais pardon. Je les connais très bien, cette race. Ce qui est profondément attachant chez Aurélie, c'est que malgré une conscience de plus en plus avertie de son mauvais jeu de cartes de départ, elle a même pas une paire de deux, Aurélie ne se soumet pas. Cette insoumission se résume en une phrase, elle refusait à son destin de pauvre de s'accomplir. Et Paris, forcément, ne sera pas so romantic, ville de lumière et d'amour, Édith Piaf et Riz de Veau. Aurélie vit seule, seule dans une ville de 12 millions de personnes, une ville qu'elle voit grise, triste et gothique, et assommée par le paradoxe de tout provincial exilé quand il constate que Paris est à la fois répugnante et addictive. La question finalement, c'est Aurélie aura-t-elle le cuir aussi épais que la pomme de terre vitelotte? Ses dépipés lui feront-ils rater son départ? On voudrait tant l'avoir vue quelque part dans le métro, cette Aurélie, et sans être à Athos, Porthos ou Aramis, avoir su lui filer un coup de main. Merci, bisous, merci.
Merci Juliette. Et merci de nous avoir fait découvrir Marion Messina. Nous avons donc invité, grâce aussi à Guillaume, Faux Départ, la première édition, au dilettante, disponible aussi en version poche.
Mais oui, c'est pas cher là, vraiment.
Évidemment.
Que je vous vois pas dans le métro lire autre chose.
Non, si vous l'achetez pas, vous êtes des cons, franchement, je vous le dis.
Oui, voilà, tout simplement.
Les écrivains sont aussi très actifs sur les réseaux sociaux pour participer aux débats de société, essentiellement, se faire connaître aussi, la promo, toujours la promo. Oh là là, du son.
Bon, alors, je sais pas pourquoi, hein, ton livre fait un carton, tout le monde veut rencontrer l'auteur, et moi, j'en ai marre d'expliquer à tout le monde que tu es décédé. Non, mais t'es quand même mon seul auteur vivant à vouloir être connu à titre posthume.
Je ne veux pas me montrer.
Mais comment ça, tu veux pas? Non, mais tu te prends pour les Daft Punk?
Non, mais... Émile Ajar, ça a bien marché. Oui, oui, bon, je sais ce que tu vas dire. Je ne suis pas Romain Gary.
Voilà.
Gaspard Proust et Valérie Le Mercier dans L'amour dure 3 ans, le film de Frédéric Becbédé. Cet article sur les écrivains qui s'investissent sur les réseaux sociaux, on l'a trouvé dans l'Express, titré « Je suis écrivain ». Donc, juste une petite question à ce sujet. Est-ce que vous qui avez le sens de l'analyse et le sens de la formule, vous êtes toute faite pour les réseaux sociaux, est-ce que vous les utilisez aussi pour partager votre vision de la société ?
C'est quelque chose d'extrêmement chronophage et de très ingrat, les réseaux sociaux. Hein. C'est... quelqu'un que vous n'avez jamais vu, que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, vient vous parler en disant direct « Moi aussi je suis écrivain, lis mon livre !» Ou alors vous partagez quelque chose de vaguement politique et en ce moment vous avez quand même plutôt l'occasion et il y a tout de suite quelqu'un qui vient vous traiter de trou du cul ou dernièrement de Miss France parce que j'ai dit que les Gilets jaunes voulaient juste nourrir leurs enfants et là... je ne sais plus qui que j'ai bloqué depuis a dit que j'étais une Miss France qui voulait la paix dans le monde. Et donc,
c'est vrai qu'en vous entendant là ces dernières minutes, ça s'est vraiment dit ça.
Oui, c'est vrai. Je pense que le comité Miss France est passé à côté d'une bonne soirée avec
vous
moi.
Préférez vous investir dans l'écriture.
Ouais, c'est ça que j'aime et c'est pour ça que je suis faite. Pour moi, le service après-vente, si c'est une rencontre en librairie, si c'est une émission de radio, il y a pas de problème. Mais on n'est pas à Athènes, ou en tout cas les gens sont pas au niveau de l'Athènes de Périclès. Donc être sur un réseau social, c'est-à-dire que vous êtes toute seule au milieu de 2000 personnes qui peuvent venir vous parler, vous agresser, vous invectiver alors que vous ne les connaissez ni d'Ève ni d'Adam. Et c'est humainement c'est pauvre, rhétoriquement c'est faible. Et financièrement, je crois que c'est inintéressant. Donc,
Je vous renvoie à cet article de l'Express, hashtag je suis écrivain, où un sociologue explique que les romanciers perdent peut-être un peu d'autorité dans la société et qu'ils essaient de pouvoir participer au débat par cette fenêtre des réseaux sociaux. Marion Messina, je suis sûre que vous savez faire plein de trucs, y compris comédienne.
Ah, bien sûr.
Le sketch de fin d'émission et on est parti d'un article qui dit que 80% des patients ont déjà menti à leur médecin.
Bah, oui.
Et oui, on ment sur notre façon de vivre, sur les traitements qu'on a très bien suivis, comme il l'a dit, ou sur les douleurs qu'on exagère un petit peu, parce qu'on a envie vraiment d'avoir mal. Alors, comment ça se passe? Vous êtes médecin, et puis, il y a quelques clients un peu connus qui viennent vous rendre visite.
C'est fabuleux.
Alors docteur, vous allez bien?
C'est à vous qu'il faut poser la question, madame Joanneau.
Oh, ça va, ça va.
Est-ce que vous faites de l'exercice?
Oh, si vous saviez, j'arrête pas, je travaille énormément. Dès que je peux trouver un nouveau poste, je me jette dessus, voilà.
Ah ouais, attention au burn-out.
Voilà, oui, bah justement, peut-être il faudrait me mettre en arrêt de travail.
Vous dépensez beaucoup?
Ah, bah ça pour les dépenses, avec le salaire que je gagne.
Non, je pense qu'il faut pas s'inquiéter, hein, vous pourrez retourner travailler demain.
Ah, je me sens pas bien.
Oh, je me sens léger, léger, léger.
Monsieur Gérard Depardieu, vous êtes sûr?
Oh, j'ai suivi scrupuleusement le régime que vous m'aviez prescrit, docteur. Formidable.
Vous ne seriez pas en train de mentir.
Mais regardez-moi, je ressemble bientôt à Kate Moss.
Bonjour docteur, je viens pour ma visite annuelle.
Bonjour monsieur Philippe Croizon, comment va la santé?
Oh bah, beau pied, bon oeil quoi. Hein.
Vous êtes sûr? Vous avez tout bien fait comme je vous l'avais imposé?
Tout comme vous m'avez dit, oui.
3 jogging par semaine?
Oui, j'ai fait.
Les 20 pompes par jour?
J'ai fait, même 25 des fois j'ai fait.
Ah bah c'est parfait.
Oui, vous regardez pas si j'ai les verrues plantaires là?
Dernier patient, s'il vous plaît.
Docteur, j'ai une énorme piqûre de guêpe.
Vous a-t-il piqué, madame Dombal?
Je ne peux pas vous le dire, c'est beaucoup trop gênant.
Au sein gauche?
Oh mon Dieu, pire que ça.
À la fesse droite?
Pire que ça.
Mais où alors?
Où j'ai été piquée? Au Lidl. Oh mon Dieu, si mon mari apprend ça. Merci Mario Messina.
Oh bah merci.
On était ravis de passer cette heure avec vous et de discuter de votre livre que je pense que les auditeurs ont compris, qu'on vous le recommande. Vous savez quoi, un livre de poche, c'est 7,10€.
Si vous n'aimez pas, je vous rembourse. M'écrivez à la maison de la radio, je vous rembourse.
Si vous êtes assez de droite, et il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, vous demandez un remboursement à Guillaume Briffe, on va voir. Mais non, ça parle à tout le monde.
Bon, la science-fiction, c'est toujours plaisant pour ces gens-là aussi.
Le roman de Marion Messina. Merci beaucoup les amis. Merci Juliette Arnaud, Mélanie Boer, merci Alex et Guillaume. On va se retrouver demain avec un autre écrivain, avec Atik Raimi. Et on va laisser le mot de la fin à Marion Messina. Prends ça, Michel Houellebecq.
Eh ben ça, vous ne l'avez pas dans sérotonine, voilà.